This is Radio Free Europe.
Minutos en Colombia.
Radio Dacia. France Inter, le 18-20.
Le 18-20 ce soir en Chine et en Cisjordanie, ce sera ailleurs dans le monde, le journal de l'international de Michael Thébault. Cinéma, Eva Bettan viendra nous parler du film Jackie, consacré à Jackie Kennedy. À 18h55, c'est l'édito de Vincent Giret du quotidien Le Monde, consacré ce soir à la haute administration américaine sous Donald Trump. Démission en cascade dans les ministères, à commencer par celui des Affaires étrangères. Tout de suite, retour en Grèce.
Nicolas Demorand, un jour dans le monde.
Car le pays a été à la une ces dernières années et a, pour ainsi dire, quasiment disparu des radars médiatiques. Pourtant, la Grèce n'est pas sortie de la crise économique et elle est toujours en première ligne dans la crise des migrants en Europe. Retour en Grèce donc, avec nos invités ce soir. Thomaïs Papayohannou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste à la télévision publique grecque et avec nous également Georges Prevelakis, bonsoir. Bonsoir. Professeur de géopolitique à l'université Panthéon-Sorbonne, représentant permanent de la Grèce auprès de l'OCDE.
Depuis un an et demi.
Mille excuses, c'était pour mémoire alors. Merci d'avoir fait la rectification. C'est une erreur de ma part, une de plus, où la Grèce a bien disparu des écrans médiatiques, Thomaïs?
Oui, c'est un fait. Elle a disparu, mais il y a une excuse derrière, c'est-à-dire que nous entrons dans une année électorale en Allemagne et en France. Il faut oublier les soldats grecs parce que ça crée beaucoup trop de problèmes, surtout en Allemagne, à l'intérieur avec les partis. Donc forcément, il faut écarter ce problème. Mais c'est si le problème existe et il y a des sommets européens à tout va pour pouvoir résoudre un énorme problème encore et encore, la dette grecque qui persiste. Et bien sûr, il y a une guerre entre le FMI, le Fonds monétaire international, et l'Union européenne et l'Allemagne comme protagoniste pour résoudre cette fameuse question de la dette grecque.
Détourner les yeux de la Grèce, Georges Prevelakis.
Oui, je suis d'accord. Nous sommes dans une ambiance d'omerta. Personne n'a intérêt, ni du côté grec, ni du côté européen, qu'on en parle. La réalité est assez lourde, très inquiétante. Et je pense que on va pas pouvoir éviter que la Grèce revienne sur l'actualité dans quelques mois, parce que on s'approche à des échéances qui rappellent beaucoup l'ambiance de l'été 2015.
C'est-à-dire, rafraîchissez-nous la mémoire.
C'est-à-dire, la Grèce est à sec en ce qui concerne ses possibilités de payer l'échéance de sa dette. Elle dépend du financement de bailleurs de fonds à nouveau, financement qui ne peut venir qu'après avoir passé l'examen que la Grèce passe en ce qui concerne les réformes. Or, les réformes n'ont pas du tout avancé.
Bon, donc la crise grecque est encore et toujours devant nous.
Et c'est même pire parce que la situation géopolitique s'aggrave. On a évoqué la question des migrants, des réfugiés, mais il y a aussi beaucoup d'inquiétudes en ce qui concerne les rapports avec la Turquie. Et récemment, la Grèce a refusé c'est-à-dire la justice grecque a jugé qu'il ne fallait pas extrader 8 officiers turcs qui se sont réfugiés après le coup d'État. C'est que la Turquie a pris très mal. Donc nous assistons depuis quelques jours à des incidents dans la mer Égée. On sait bien que la Turquie devient un grand problème géopolitique dans la région. Alors donc, à la place de résoudre les problèmes, on voit qu'il y a une sorte d'accumulation, une sorte de convergence qui peut conduire à une explosion.
Donc la situation est encore plus préoccupante qu'elle ne l'a jamais été, Thomaïs Papayohannou.
Elle est toujours la même, elle est sous perfusion, la Grèce. Tous les mémorandia qu'ils ont votés, ils ont signés, ne servent à rien, c'est une mauvaise politique, et on l'a dit depuis tant d'années, et surtout maintenant l'FMI, et de notre côté, bizarrement, ironiquement, ils disent que la dette a dû être être effacée, une partie en tout cas à 2010. Or, on ne le fait pas, elle augmente, elle va exploser, elle explose déjà. Donc, ils demandent, si nous voulons, disent-ils, participer à un nouveau programme de sauvetage, énième programme de sauvetage pour la Grèce, il va falloir discuter de cette dette-là, qui n'est pas du tout, elle n'est pas viable, et donc, il va faire quelque chose. Vous savez, il y a un terme aux États-Unis maintenant très à la mode, alternative facts, des faits alternatifs.
Oui, ne dites plus mensonges, dites faits alternatifs.
Eh ben, nous vivons en Europe depuis 7 ans avec des faits alternatifs.
Sur la Grèce.
Sur la Grèce. On sait quel est le problème, on sait comment il faut le résoudre, mais on refuse de voir cette réalité. On adapte la réalité à nos besoins, et ça, c'est très européen.
La machine économique est cassée en Grèce, d'après vous ?
Ah oui, effectivement. Elle est à plat parce que déjà, les impôts sont très, très forts, et ils augmentent constamment, il y a une instabilité constante, donc il n'y a pas de confiance au marché. Les entreprises sont parties vers des paradis fiscaux un peu plus cléments, et surtout, les cerveaux grecs ont émigré vers des cieux beaucoup plus cléments et beaucoup plus généreux en termes de salaire. Donc, déjà, les forces vivantes du pays n'existent plus en Grèce. Donc, comment va-t-on sauver un soldat dont la chaîne productive est morte et on vit sur perfusion constante? On n'investit plus dans le marché, dans le vrai marché, dans l'économie réelle. Les banques ne donnent pas des crédits. Donc, comment voulez-vous que la machine redémarre?
Je vous pose la question, Georges Prevelakis. Elle peut redémarrer, la machine? Elle est...
Écoutez, j'ai toujours dit que ces débats sur la crise grecque s'est focalisé sur les aspects économiques et a sous-estimé les aspects politiques. La crise, à mon sens, est politique, elle n'est pas économique.
Expliquez-nous.
C'est la faillite de la classe politique grecque qui a été incapable de réformer le pays. Parce que, afin de sortir de la crise économique, on a besoin d'investissements. Et les investissements ne peuvent pas venir dans cette ambiance qui existe en Grèce. Enfin, ce sont des choses qui ont été analysées. On sait ce qu'il faut faire comme réforme, mais il y a une très forte résistance de groupes d'intérêts. Alors, il y a eu une première période avec des tentatives de réforme. Et ensuite, depuis les élections, on a une situation où, en fait, à la place des réformes, on met en place des contre-réformes. Alors, on essaye de résoudre ces problèmes à travers l'imposition. Ça ne mène nulle part, ça mène à l'explosion. Le problème est le même. Il faut que le système politique arrive à convaincre la population qu'on doit changer, qu'on doit abandonner les habitudes qui ont conduit à la crise.
Ça n'est pas acquis, ça, encore?
Pas du tout. Je pense que j'ai craint que, sur le plan psychologique, on va traverser une crise encore plus grande pour réveiller la population. Parce que, vous savez, le système...
Elle est fatiguée, là. Hein.
Oui, elle est fatiguée, mais le système politique, depuis des décennies, depuis l'entrée de la Grèce en Europe, le système politique ne faisait pas autre chose que de rassurer et de donner de faire une mauvaise pédagogie à la population. Alors, la crise arrive et du coup, le système politique s'adresse à la population en disant « Ah, vous savez, on s'est trompé, maintenant il faut faire des sacrifices ». Ça passe pas. Mmh. Et là où on avait commencé, à mon sens, à voir une possibilité des réformes, évidemment, c'était insuffisant, sans doute, etc. Les résultats étaient une telle colère de la population que nous avons eu un changement qui a repoussé les réformes en arrière.
Vous voulez dire que
Thomas Papayoannou, allez-y.
Vous voulez dire que Samaras, c'est lui qui a fait les réformes et Tsipras a démoli les réformes?
Écoutez, certainement, Tsipras a arrêté les réformes. Samaras n'a pas fait suffisamment de réformes, à mon sens. Il a fait très peu. Il n'a pas osé, surtout après les élections européennes. Il a fait marche arrière. Il a changé les ministres qui étaient les réformateurs. Mais enfin, on avait commencé à voir un peu des lumières à la fin de 2014, mais c'était de la lumière économique, pas de la lumière politique. C'est là où on s'est trompé, on n'a pas compris que ça ne suffisait pas, si vous voulez, de gérer l'économie, qu'il fallait aussi expliquer et faire la pédagogie à la population, faire un diagnostic correct. Sans cela, la population a réagi de manière émotionnelle, beaucoup plus par la peur de ce qu'il risquait de perdre que par l'espoir de ce que les réformes pourraient pour amener.
Vous voulez réagir à ce que vient de dire Georges Prevelakis?
Moi, je suis tout à fait contraire, c'est-à-dire que les réformes n'étaient pas des vraies réformes. Les réformes, c'est un mot générique, où dans les fonds, finalement, personne ne voulait, surtout pas les gouvernements Samaras, qui venaient vraiment, c'est la quintessence du système, c'était Samaras, et surtout certains de ses ministres qui venaient même d'extrême droite. Donc, la population ne voyait pas l'essence, elle a voté pour sa petite révolution, donc un parti de 3%, qui est devenu un parti majoritaire d'un coup. Et ils sont tellement désespérés, dont le désespoir était maintenant tel que finalement l'Europe a réagi avec une guerre idéologique. Schäuble, le ministre des Finances allemand, à plusieurs reprises a dit « j'aime pas Tsipras, j'aime pas cette, la gauche extrême, et on est adversaire ». Et donc finalement, il a fait tout pour que ça ne réussisse pas. Donc c'était une guerre idéologique plutôt qu'une coopération économique pour trouver une solution. Actuellement, pour revenir à la réalité actuelle, la Grèce n'a pas de vie politique. La Grèce est dominée par, elle est un protectorat, une colonie.
Oui, je suis d'accord.
Et tout ce qui passe, chaque centime dépensé dans le pays est contrôlé par la Troïka, ce terme atroce. Donc, maintenant, le pays, même, il faut dissoudre le Parlement, ça ne sert plus à rien. Ça sert juste de voter 300 lois d'un coup. Et ça n'a plus de sens. Les réformes, c'est juste augmenter les impôts, couper dans les dépenses. Et justement, voilà. Et le reste, c'est juste du blabla politique.
Et dans quel état, oui, vous voulez dire un mot ?
C'est un cas de figure extraordinaire en Europe. C'est le seul pays où vraiment on est une vraie colonie.
Alors, dans quel état précisément est Syriza ? Dans quel état est Tsipras aujourd'hui ? Est-ce qu'ils sont encore soutenus par la population ou est-ce qu'ils sont démonétisés comme leurs prédécesseurs au pouvoir ?
La même chose, exactement comme vous dites. Il y a une déception totale parce que la politique, bien sûr, n'a rien changé. Et Tsipras fait exactement la même chose que les autres. Et il a installé un système identique comme les autres. Mais parce que justement, maintenant, c'est une question de survie politique dans un océan de guerres, parce qu'il sait que le reste de l'Europe vire vers la droite, même l'extrême droite dans certains pays. Donc c'est peut-être le seul pays où il y a encore un gouvernement de gauche entre parenthèses. Donc
entre guillemets,
ça, entre guillemets, pardon.
Ou entre parenthèses, enfin vous choisissez. Mais...
Il ne faut pas même prononcer les mots parenthèses en Grèce, parce qu'ils se considèrent toujours comme une espèce de parenthèse politique. Et donc voilà, c'est une survie. Donc il adopte le même système que les autres, et ça n'amène nulle part. Et d'ailleurs, tout le monde le dit que Schäuble a fait, le ministre des Finances allemand, a fait voter ce dernier mémorandum en Grèce, juste pour que la Grèce échoue une fois pour toutes, et qu'on la vire de la zone euro une fois pour toutes.
Alors venons-y, justement, on se souvient que le Grexit a été une hypothèse, c'est un mot sur lequel a été créé le Brexit, qui est devenu une réalité. Revenons donc à l'origine, est-ce que le Grexit est encore sur la table, Georges Prevelakis, ou est-ce que c'est une possibilité impensable ?
Écoutez, il y a deux choses. Il y a d'un côté le contexte européen qui compte, qui est très important. Et ça, je pense qu'on ne peut pas le prévoir. Hein, parce qu'on voit bien, même en France, on voit comment les choses changent du jour au lendemain.
Oui, voire d'heure en heure.
Donc c'est imprévisible. Il y a un autre aspect très actuel, aujourd'hui ou hier. Le porte-parole du gouvernement a dit que la question de la sortie de la zone euro pourrait être discutée ou devrait être discutée dans le Parlement. C'est la première fois qu'un responsable du gouvernement envisage une telle possibilité. Jusqu'à maintenant, la langue de bois du gouvernement était...
Surtout pas.
Surtout
jamais.
Pas. Bon, donc, on se pose la question, comment interpréter cette déclaration bizarre ? Est-ce que c'est une menace en se rapprochant à une négociation lourde, difficile ? Est-ce que c'est la menace que la Grèce peut déstabiliser une Europe déjà instable ? Ou est-ce que ça correspond à une véritable stratégie d'un gouvernement qui se trouve sans beaucoup de marge de manœuvre, donc qui envisage une sortie héroïque, mais qui pourrait devenir extrêmement dangereuse, d'abord pour la Grèce, pas seulement d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue géopolitique et géostratégique.
Sur le Grexit, Tomaïs Papayohannou.
Vous savez, moi j'attends les élections allemandes, les résultats des élections allemandes pour voir vers où le vent va souffler, et voilà, va s'orienter. Et honnêtement, on peut pas prédire ce qui va se passer. Le Grexit va être une des solutions pour sortir d'une dette hallucinante qui s'approche à 200% du PIB national. Ce n'est pas tenable. Hein. Mm-hmm. Et il faut trouver soit on efface une énorme partie de la dette, soit il va falloir trouver autre chose.
Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que cette affaire de la dette, il faut se rendre compte que le service de la dette est très bas. Et ce qui est important, c'est ce qu'on doit payer, ce n'est pas le montant. Moi, j'ai le sentiment que cette question de la dette est un prétexte, parce que la réalité, c'est quoi ? La réalité, c'est que l'économie doit commencer à produire. Si l'économie entre dans la croissance, ce qui n'est pas impossible, parce que la Grèce dispose d'atouts extraordinaires. C'est un pays qui peut vraiment entrer dans la croissance, mais sous condition qu'on cesse d'entraver cette croissance. Il faut vraiment connaître comment ça fonctionne. Quelqu'un qui vient investir en Grèce, il part en courant parce qu'il se trouve face à une administration d'une extrême complexité et aussi souvent corrompue. Il se trouve face à un système de justice complètement inefficace qui ne règle rien pendant des années et des années, face à un système d'imposition qui change tous les mois. Donc, ils viennent, ils voient et ils partent. Donc, c'est ça qu'il faut régler. Il faut faire les réformes. Hein, et il y a vraiment des réformes. Quand on sait la Grèce de l'intérieur, quand on pratique la Grèce de l'intérieur, qu'on est d'accord ou pas d'accord avec tel ou tel gouvernement, mais nous savons tous quelle est la différence dans le fonctionnement quotidien, quels sont les blocages, les entraves à toute activité et comment ces systèmes chassent tous ceux qui veulent produire. Donc c'est ça qu'il faut faire. Il faut casser ces structures. Mmh. Mais ça, c'est pas facile.
Tomaïs Papayohannou.
C'est la vérité. Mais le problème, c'est que qui on a actuellement dans la vie politique grecque, c'est à pleurer. À pleurer littéralement. Tsipras, il a fait ses preuves, et donc il n'a rien produit. Mais de l'autre côté, on a un chef de l'opposition qui vient de la fameuse famille Mitsotakis. Comme on avait trois familles qui régnaient sur le pays depuis la nuit des temps, c'est Papandreou, Karamanlis et Mitsotakis. Et qui est maintenant le chef de l'opposition? Mitsotakis. Est-ce que cette famille-là...
Donc c'est reparti comme en 14.
Il ne faut pas politiser la discussion.
Promet qu'il va nettoyer le pays, qu'il va arrêter la corruption. Or, ça fait depuis le début du XXe siècle que cette famille vit dans ce pays.
Georges Prévelakis.
Ce discours va complètement, si vous voulez, détruire tout espoir. Ce que vous dites signifie qu'il n'y a aucun espoir. Moi, je pense que dans chaque parti, il y a de bons éléments et de mauvais éléments. On ne peut pas faire l'amalgame. Tout le monde n'est pas, si vous voulez, corrompu, mauvais, etc. C'est le contexte qui permet à certains qui veulent vraiment aider le pays à agir, ou le contraire, et c'est ce que nous avons vu pendant longtemps, c'est que justement, moi je pense que il faut soutenir les éléments qui veulent agir dans tous les camps, dans tous les partis.
Voilà, on a deux approches de l'optimisme ou du pessimisme. Je ne sais pas comment le dire. Merci à tous les deux, c'était très intéressant. On reviendra donc en Grèce très souvent, puisqu'à vous entendre, dans les mois qui viennent sont encore une fois déterminants. Tomaïs Papayohannou, notre consoeur de la télé publique grecque. Georges Prévelakis, professeur de géopolitique à l'université Panthéon-Sorbonne. Merci. Bob Marley sur Inter. Bob Marley sur Inter, 18h39, le journal de l'International.
24 minutes.
BBC's Brian Hanrahan.
Buenos días, comienzan las comparecencias.
Thanks so much for that report.
Avec Michaël Thébault, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Pour commencer, direction la Cisjordanie, Michaël, et plus précisément la ville d'Hébron.
Oui, avec un rapport qui fait déjà beaucoup de bruit en Israël. Vous savez peut-être qu'en ce moment, à Tel Aviv, on attend les réquisitions contre ce soldat franco-israélien accusé d'avoir achevé à Hébron, précisément, un assaillant palestinien. Eh bien l'ONG israélienne Breaking the Silence profite visiblement de ce moment de tension pour publier un nouveau rapport sur les liens entre l'armée et les colons dans les territoires occupés. Breaking the Silence, c'est une organisation opposée à la colonisation, composée essentiellement d'anciens soldats, et qui donne une vision de terrain avec les témoignages de militaires. Son dernier rapport dénonce donc la proximité entre les colons et les soldats chargés d'assurer leur protection. Bonsoir Étienne Monin, en direct de Jérusalem.
Bonsoir Michael.
Alors vous revenez précisément d'Hébron, lieu symptomatique à Étienne de cette porosité armée-colon, porosité précisément dénoncée par Breaking the Silence.
Hébron, c'est à la fois la plus grande densité de soldats par colon et c'est le symbole d'un criant dysfonctionnement avec l'image publiée dans la presse du soldat dont vous parliez tout à l'heure qui est félicité par un colon ultra-radical après avoir achevé à terre un assaillant palestinien. Le recueil de témoignages confirme ce que dit cette scène en creux, à savoir que l'armée subit, d'après le travail de l'ONG, l'influence des colons qu'elle doit protéger. La proximité se transforme en une sorte d'intimité. Les soldats reçoivent des invitations et des petits cadeaux avec des arrière-pensées, explique Dean, qui a servi comme officier pendant 4 mois à Hébron.
J'étais invité chez le coordinateur sécuritaire de la colonie, ici à Hébron. Il avait acheté des pizzas. On était assis autour des cartes pour parler sécurité. Et là, je doute vraiment que c'était une coïncidence. Le responsable de l'éducation des enfants de la colonie est entré. Et ce qu'elle a dit devant tous les officiers, c'est « Écoutez, nos enfants ici subissent beaucoup de pression. Ils ont une vie très dure. Donc des fois, ils font des bêtises. » Ce qu'elle voulait dire par bêtises, c'est des violences contre les Palestiniens. Ils jetaient des pierres sur des Palestiniens qui vivent à côté d'eux. Mais ce qu'elle a dit, c'est « Ne prévenez pas la police. Amenez-les-moi et je m'en occuperai. » Donc quand un enfant de colon jette une pierre à Hébron, c'est une bêtise. Quand un Palestinien jette une pierre à Hébron, c'est un geste terroriste.
Mais y a-t-il des règles au sein de l'armée israélienne elle-même, Étienne, pour encadrer ces relations entre soldats et colons ?
Oui, c'est ce qu'a répondu la hiérarchie quand l'ONG s'est tournée vers elle pour s'inquiéter de cette situation. Mais ce que pointe au final le rapport, c'est que la relation structurelle avec l'armée permet aux colons d'instrumentaliser des soldats qui sont laissés sans cadre suffisant. Murphy était soldat près de Naplouse dans une unité de coordination.
Parfois, c'est comme une extension de l'armée. Vous avez ces coordinateurs de sécurité civile, ils viennent avec les soldats lors des opérations, ils entrent dans les villages palestiniens, ils arrêtent des enfants palestiniens. Et surtout, d'une certaine façon, ils peuvent orienter ou diriger les opérations. Par exemple, lorsqu'ils appellent pour dire que des Palestiniens se rapprochent d'une colonie, vous savez qu'il y a des caméras tout autour des colonies et que tant que le soldat n'est pas sur place, ils ont le contrôle sur la façon de présenter l'affaire.
Et donc, presque 50 ans après le début de l'occupation, ce que dénonce ce rapport, c'est l'utilisation de l'armée comme instrument actif de la colonisation. Yehuda Shaul est un fondateur de Breaking the Silence.
Our job here.
Notre travail ici, c'est uniquement de défendre les colons. Mais quand vous ajoutez à cette mission les relations personnelles et la relation structurelle, eh bien globalement, cela donne une réalité où vous êtes là en tant que soldat, d'une certaine façon, pour servir les colons. Le résultat, ça n'est pas seulement le maintien de la colonisation avec l'outil militaire, mais c'est aussi une expansion et un encouragement du projet colonial.
Et ce rapport s'appuie sur une quarantaine de témoignages et il est rejeté par le porte-parole des colons à Hébron.
Et on n'a certainement pas fini d'en parler. Merci beaucoup Étienne Monin en direct de Jérusalem et donc de retour d'Hébron en Cisjordanie.
Et honneur maintenant à la Chine, Michael, à travers un véritable manuel de géopolitique et d'économie chinoise signé Jacques Gravereau.
Oui, l'un des plus grands experts européens de l'Asie contemporaine, fondateur entre autres de l'Institut HEC Eurasia, et qui publie donc « La Chine conquérante, enquête sur une étrange superpuissance », c'est le titre. 265 pages pour comprendre la Chine d'aujourd'hui dans sa complexité, dans ses paradoxes, et à l'aide de très nombreuses et éclairantes références historiques. C'est un portrait détonnant de la deuxième puissance économique mondiale, à l'image de son dirigeant lui-même, Xi Jinping, qui a fait sensation il y a 2 semaines à Davos, un moment quasi historique, on en avait parlé ici même, le numéro 1 chinois, qui prononce le discours inaugural du Forum économique mondial, premier chef d'État chinois à venir à Davos, et ce bien sûr à 3 jours de l'investiture de Donald Trump, ce qui n'avait échappé à personne. Un coup de com', estime Jacques Gravereau, d'accord, mais un formidable coup de com', écoutez.
Effectivement, la semaine de l'intronisation de Donald Trump, Xi Jinping a fait une opération de relations publiques formidable. D'abord, il est venu avec une très grosse délégation à Davos, avec des grands chefs d'entreprise comme Jack Ma d'Alibaba, etc. Et puis, ce qu'il a dit en substance, c'est « Regardez-nous, la Chine est un pôle de stabilité formidable. Sous-entendu, l'autre excité en face, ça n'est pas la même chose. Bon, mais les Chinois sont polis. Nous sommes un pôle de libre-échange extraordinaire. Dans l'ouverture du monde, il n'y a pas mieux que nous, etc. Et comme à Davos, les chefs d'entreprise sont en général respectueux, sinon déférents devant les princes qui gouvernent le monde. Et ils ont dit Xi Jinping, quel homme remarquable, en effet, la Chine, etc. Bon, alors, en fait, les gens qui exercent vraiment leurs activités en Chine, c'est un petit peu différent parce que l'accès au marché public, le fait que des secteurs entiers soient fermés aux entreprises étrangères fait que c'était évidemment pas un pôle d'ouverture et de liberté.
Voilà, pas un pôle d'ouverture et de liberté. Et d'abord, évidemment, en raison de la nature même du régime, l'ouvrage s'intitule donc « La Chine conquérante, enquête sur une étrange superpuissance ». Alors en quoi est-elle étrange, cette superpuissance ? Élément de réponse.
Elle est étrange parce que, d'abord, on a un parti communiste au pouvoir qui a évidemment le monopole du pouvoir sans aucun contre-pouvoir. 88 millions de membres du parti communiste, ce qui est monstrueux. Enfin, c'est plus que l'Égypte ou l'Iran ou l'Allemagne en population. Et en même temps, c'est le pays le plus capitaliste qui soit. Donc ça, c'est la première étrangeté moderne. Puis la deuxième étrangeté, il y en a beaucoup, mais la deuxième étrangeté, c'est que les Chinois pensent pas comme nous. Je prends un exemple de contrat chez nous. Quand on signe un contrat, on signe un contrat pour tout d'ailleurs, on négocie très savamment à l'avance les différents points du contrat, ensuite on le marque sur un morceau de papier, article 1, article 2, article 3, on signe et puis on met ça dans son placard parce que ça a une valeur absolue qui, 3 ans plus tard, 5 ans plus tard, aura la même valeur. En Chine, quand on signe un contrat, bon bien sûr on négocie à l'avance, mais c'est pas ça qui compte parce que s'il y a un problème, s'il y a une modification, les Chinois feront évoluer la chose. Et donc nous sommes tout à fait désemparés parce que on va arriver avec nos avocats, nos tribunaux en disant, dites donc, article 3, c'est pas ce qu'on a dit il y a 2 ans. Et les Chinois vous diront, oui, mais entre temps, les conditions ont changé, l'environnement s'est modifié, etc. Donc, pour résumer, chez nous, le contrat, c'est la fin d'un deal qui est gravé dans le marbre. Et pour les Chinois, c'est le début d'une relation qu'il faut aménager de façon fluide et faire évoluer.
Voilà, grande culture, mais qui reste donc aujourd'hui encore aux antipodes des standards occidentaux et qui continue de fasciner tous les économistes de la planète avec cette insolente croissance. Croissance certes en baisse, mais qui fait toujours rêver. Pour mémoire, la richesse par habitant était de 190 dollars en 1980, 8000 dollars en 2015. Ascension absolument fulgurante en 30 ans. Et même si le moteur commence à caler, le gouvernement chinois a quelques outils très pratiques.
On a eu pendant 20 ans 10% de taux de croissance. 10%, ça paraît abstrait comme ça, mais si vous prenez une calculette, 10%, ça vous fait un doublement tous les 6 ans et demi. Alors, ça peut pas durer éternellement. Et d'ores et déjà, depuis 4 ans, la Chine enregistre des taux de croissance inférieurs de 3 points à ça. Mais quand il y a un problème économique en Chine, on donne ordre aux banques, qui sont des banques d'État, donc c'est facile, d'alimenter la machine, et puis on alimente la construction, les grands travaux, l'immobilier, etc. C'est ce qu'on a fait à la mi-2016, c'est ce qu'on risque de faire à la mi-2017, et puis la machine peut continuer à tourner.
Et la grande crainte des autorités chinoises, c'est évidemment une croissance qui passerait de 7% aujourd'hui à 5, voire 4%. car baisse de la croissance signifierait immédiatement, mécaniquement, hausse du mécontentement populaire, fronde déjà perceptible.
Alors c'est clair que c'est le syndrome de la bicyclette, c'est-à-dire tant que la bicyclette avance à une grande vitesse, ça masque l'ensemble des problèmes socio-économiques qu'il peut y avoir, et puis si la bicyclette commence à avancer moins vite, elle risque d'aller dans le mur. Alors, moins vite, ça veut dire quoi? On pense que si la croissance chinoise baisse en dessous de 5%, là, on commencera à avoir un certain nombre de problèmes. Non pas qu'il n'y en ait pas actuellement, bien sûr, il y en a surtout dans les dommages collatéraux de la croissance, parce que la croissance est allée tellement vite qu'en matière de pollution, en matière de sécurité alimentaire, en matière de fractures sociales, de répartition de richesses, il y a vraiment des grands écarts. Mais enfin, pour l'instant, on arrive à maintenir la bicyclette économique à peu près en ligne. Mais il faut voir que toutes les aciéries chinoises, les cimenteries chinoises sont en surcapacité absolument monstrueuse. On a licencié quand même 700 000 personnes dans l'acier et dans le charbon chinois l'année dernière, et c'était 600 000 l'année d'avant. Donc imaginez-vous, ça crée des chocs sociaux monstrueux dans un certain nombre de provinces.
Voilà, alors on ne parle pas encore bien sûr de crise, mais l'émergence d'une authentique classe moyenne chinoise change bien sûr la donne. Velléité de démocratie sous haute surveillance du pouvoir, même si ce concept de velléité démocratique n'est pas très chinois.
Les velléités démocratiques, ça c'est un vocabulaire occidental. Quand la richesse crée des classes moyennes, les classes moyennes, ce qu'elles veulent, c'est d'abord qu'on arrête l'arbitraire. C'est-à-dire que l'arbitraire, c'est un fonctionnaire local qui vous pique votre boutique ou votre champ ou qui change les règles du jeu toutes les trois semaines. Ça, des classes moyennes qui ont ramé dur pour avoir un petit patrimoine, elles n'en veulent pas. Donc ça, c'est très très vif. On est dans un système qui est d'idéologie léniniste, enfin avec un fonctionnement léniniste du pouvoir. Simplement, Lénine n'avait pas prévu Internet. Alors, le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il y a 700 millions de personnes qui surfent sur Internet tous les jours. Alors, que font les autorités qui ont peur de ça? Elles verrouillent. Elles verrouillent, elles ont une police du net où il y a 50 000 policiers super formés qui sont en train de surveiller tout ça, avec des logiciels vendus par Cisco Systèmes américains, d'ailleurs. Donc quand on parle de démocratie et de droits de l'homme, on pourrait regarder midi à notre porte aussi. Mais aujourd'hui, il y a une course contre la montre entre le pouvoir politique et les internautes. Et jusqu'à présent, le pouvoir politique s'en sort bien parce que il y a à peu près 2 millions de personnes qui travaillent pour le gouvernement chinois de chez eux, qu'on appelle les Wu Mao, c'est-à-dire les gens qui touchent 50 centimes par heure. Ça fait des petits revenus supplémentaires et qui alimentent le buzz permanent sur le net avec des mots d'ordre qui sont concoctés par le gouvernement chinois. Donc on sature aussi, on contre-sature, si vous voulez, le net aussi, avec une politique manipulée en haut lieu par le gouvernement chinois.
Voilà, la Chine conquérante, enquête sur une étrange superpuissance, signé Jacques Gravreau, c'est aux éditions Erol. Et Nico, à demain.
À demain.
Moteur. Un jour dans le monde. Nicolas Demorand. Oh,
allons-y.
Sur France Inter.
Oh putain, moteur.
Eva Bétan, bonsoir.
Bonsoir.
Vous nous parlez aujourd'hui du film Jackie Kennedy.
Oui, alors Jackie, d'abord, il faut dire que c'est un film de Pablo Larraín, qui est un cinéaste passionnant. Il y a deux films de lui à l'affiche en ce moment que vous pouvez voir. Neruda et Jackie. Vous remarquerez que chaque fois, l'un, il n'a pas besoin de prénom, elle n'a pas besoin de nom de famille. Il va prendre l'un et l'autre dans un moment court, dans un moment de crise, et il va choisir des formes différentes. Pour le poète chilien, il va faire comme de la littérature sud-américaine. Pour Jackie Kennedy, il va faire une sorte de nouvelle courte, tendue. C'est un film contrôlé parce que c'est un film sur le contrôle. Jackie l'apprend au moment où son mari est assassiné et on va voir cette femme, c'est pas juste une veuve, c'est une première dame qui a perdu le président. Et elle va utiliser le peu de pouvoir qui lui reste. Il est court, hein, mais pour organiser les funérailles. Elle va vouloir contrôler. Et en quelque sorte, c'est à la fois très noble et c'est monstrueux. Il y a les deux en même temps et c'est en ça que c'est un film remarquable, Pablo Larraín.
Elle voulait protéger l'héritage du président. Et ce faisant, elle a fait de lui une légende. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que cela ferait d'elle une icône. Et d'une certaine manière, un mannequin. Il y a toujours un écart quand on veut contrôler. Il y a un écart entre l'intention et le résultat. Ce film se place dans cet écart, dans ce trou noir.
Mais cette femme, elle dit, elle ne veut pas enlever le costume rose taché de sang. Elle veut que ses enfants viennent devant le cercueil. Elle dit, il faut qu'ils voient ce qu'ils ont fait. C'est une chose très forte.
Ce sont des gens qui connaissaient l'importance des médias. N'oubliez pas que le premier débat télévisé, ça a été entre Kennedy et Nixon. Ce sont des gens qui connaissaient les médias et qui s'en servaient. On le voit dans le film, elle avait organisé une visite télévisée de la Maison-Blanche. Jackie savait utiliser les médias. Et aussi, elle avait un sens politique que peu de politiciens de par le monde ont. Elle voulait se montrer pour que les gens voient l'acte qui avait été commis.
Vous montrez quelqu'un qui se rend compte que non seulement elle a perdu son mari, mais elle ne va plus être première dame et que tout son monde va s'écrouler. Elle va peut-être n'être plus rien, elle a même peur d'être pauvre.
C'est la peur de l'avenir. La même que celle qu'avait ressentie la veuve de Lincoln. C'est pour ça que dans le film, elle parle de la veuve de Lincoln. Lincoln a été assassiné et sa femme est morte dans la pauvreté. Pour survivre, elle a dû vendre leurs meubles. Jackie ne savait pas ce que serait sa vie. Elle ne savait pas ce que nous savons aujourd'hui, ce qui s'est passé ensuite pour elle. Cette peur de l'avenir est importante, ça la rend fragile, humaine. Elle ne considérait pas l'avenir comme acquis, c'est une bonne leçon.
Vraiment intéressant.
Oui, parce qu'il faut voir, c'est intéressant parce que c'est un réalisateur chilien qui regarde l'Amérique. Et donc, il a un regard d'étranger et il cherche la quintessence en quelque sorte du pouvoir en tant que société du spectacle.
Jackie, donc, dans les salles aujourd'hui. Non, demain.
On est mardi ou mercredi.
Voilà, c'est ça. Merci Eva Bétan. 18h55.
France Inter. Le 18-20. Un jour dans le monde.
L'édito de Vincent Giray du quotidien Le Monde. Bonsoir Vincent.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Vous nous emmenez Vincent à Washington, au siège du département d'État où souffle un vent de fronde.
Oui Nicolas, il faut le dire d'emblée, ce qui se passe depuis quelques heures dans l'administration américaine est absolument incroyable. C'est du jamais vu de mémoire de diplomates et de hauts fonctionnaires à Washington. On pourrait qualifier la situation de grand malaise ou de confusion générale, mais c'est le mot de chaos qui revient le plus souvent sous la plume de nos confrères spécialisés du Washington Post et du New York Times, qui eux non plus d'ailleurs n'en reviennent pas. En règle générale, les Américains mettent un point d'honneur à réaliser une transition impeccable entre deux présidents, même quand ils sont de camps opposés. Chacun y met du sien. Les équipes sortantes accompagnent pendant plusieurs mois les nouveaux titulaires, chaque fois que c'est nécessaire. L'administration américaine est un modèle de professionnalisme au nom d'une vision partagée de l'intérêt général du pays. Barack Obama avait agi, comme ses prédécesseurs, pour préparer au mieux la prise de fonction de son successeur. Mais 10 jours après la passation de pouvoir, le chaos est total car Donald Trump a déclaré la guerre à son administration. Chacun se souvenait bien sûr que pendant la campagne, le candidat Trump avait accusé Washington et les administrations fédérales de bloquer le pays, de vivre en milieu fermé, de défendre les intérêts des élites. Mais même dans leur pire cauchemar, les fonctionnaires fédéraux n'avaient pas vu venir la bourrasque qui frappe aujourd'hui l'administration américaine.
Et on assiste, Vincent, à une vague sans précédent de départ ou de mise à la retraite plus ou moins volontaire.
Eh bien oui, le lieu symbolique de la fronde, Nicolas, se trouve non loin de la Maison Blanche, c'est l'immeuble du State Department, c'est-à-dire de l'équivalent de notre ministère des Affaires étrangères. Il y a là 30 000 fonctionnaires, dont un peu moins de la moitié sont des diplomates de haut rang. C'est l'ancien PDG du groupe pétrolier ExxonMobil, Rex Tillerson, qui sera confirmé en principe dans quelques jours comme secrétaire d'État, c'est-à-dire comme le patron de la diplomatie américaine. Mais avant même son arrivée, c'est la débandade, ou plutôt une hémorragie. Les propos de Donald Trump et surtout ses premières décisions ont provoqué une vague de départ parmi les plus hauts fonctionnaires du ministère, des chefs de service, des cadres, des diplomates, parmi les plus chevronnés, ceux qui connaissent comme personne les dossiers les plus sensibles. Un document circule actuellement sous le manteau dans lequel une centaine d'entre eux critiquent les choix politiques de Trump et notamment le fameux décret anti-réfugiés, anti-musulmans, qui, loin de protéger l'Amérique et les Américains, disent-ils, les rendent au contraire plus vulnérables, plus fragiles, plus menacée. La Maison Blanche est furieuse et le secrétaire à la presse Sean Spicer a dit hier soir aux journalistes accrédités, écoutez, soit ces gens appliquent notre programme, soit ils n'ont qu'à partir. Eh bien, c'est exactement ce que beaucoup ont décidé de faire.
Et en même temps, c'est une tradition, Vincent, de l'administration américaine, que de changer d'administration à chaque changement de président.
Oui, c'est ce qu'on appelle le spoil system. Chaque nouveau président doit nommer environ 4000 personnes pour prendre les commandes du pays. Mais ce qui se passe aujourd'hui dépasse cette procédure normale. normal et met littéralement en danger la continuité de l'administration. Les experts interrogés par nos confrères américains affirment que cette vague de départ touche des compétences qu'il sera très difficile d'aller chercher dans le privé et que ces hauts fonctionnaires et ces diplomates de haut rang vont cruellement manquer, d'autant que Donald Trump n'a pas de véritable expérience politique et qu'il s'est entouré de personnalités qui n'ont souvent jamais exercé le moindre mandat et ne connaissent le plus souvent rien aux arcanes, aux usages, aux pratiques de ces administrations stratégiques, pas plus qu'ils ne maîtrisent d'ailleurs la technicité de la plupart des dossiers. Bref, ce chaos affaiblit l'administration américaine à un moment stratégique. Beaucoup à Washington considèrent que Donald Trump se tire une énorme balle dans le pied et plus grave, qu'il fragilise les fondations et les ressources vives du pays. Avec Donald Trump, l'Amérique danse désormais sur un volcan et après 10 jours seulement, on se demande déjà, mais combien de temps cela peut-il durer ?
Vincent Giret du quotidien Le Monde, merci. À 19h20, le téléphone sonne ce soir sur le tourisme en France. Étrange situation pour notre pays qui est toujours la première destination au monde, mais qui par ailleurs voit d'autres indicateurs plonger. Le tourisme en France est en crise, on va le voir, pour de multiples raisons qui ne sont pas toutes conjoncturelles. Si les attentats expliquent beaucoup de choses, le pays est également en retard par rapport à des nations comparables ou frontalières comme l'Espagne. Vos questions 01 45 24 7000, Twitter avec le mot-clé Telson.